Merci pour la belle présentation. Même des gens qui me connaissent, paraît-il, ont découvert des choses. Donc, petite précision, je n'écris pas ces magazines tout seul. Ce sont des magazines publiés par la Ligue pour la lecture de la Bible ou des groupes de presse. Et je contribue régulièrement à ces magazines. Et donc, je vous encourage vivement. Merci pour cet encouragement à soutenir ce qui se fait dans la presse écrite évangélique francophone. Je vous encourage à venir me voir tout à l'heure, vous abonner. Donc, ce sont des guides de lecture biblique, ce sont des magazines de réflexion chrétienne. Le thème qu'on m'a demandé de traiter parle d'éthique, c'est-à-dire comment nous choisissons ce que nous faisons, la manière dont nous nous comportons, quelle est l'autorité qui va nous aider à prendre des décisions dans la vie, parfois des décisions compliquées, parfois des décisions toutes simples. Et ce qui m'intéresse aussi, vous imaginez, j'ai passé donc 15 ans comme aumônier des malades du sida, vous imaginez que comment parler de certaines questions, comment évoquer certaines choses avec certaines personnes, de manière à ce que la foi chrétienne ne soit pas juste un choix religieux de plus dans le paysage religieux contemporain, de manière à ce que la foi chrétienne soit vue comme quelque chose qui donne envie à des personnes qui, peut-être par ailleurs, c'était en tout cas le cas pour la situation des malades du sida, des gens qui n'avaient vraiment pas l'habitude d'aller à l'église et qui n'avaient pas beaucoup de passerelles de communication avec nos églises évangéliques. Alors, Joël, est-ce que tu pourrais venir mettre le grand écran, s'il te plaît, pour que nous puissions voir juste... C'est l'ordinateur de Joël, je ne sais pas comment l'utiliser.
C'est fait déjà, c'est bon.
Pardon, oui, d'accord, ok. Simplement, j'appuie là, ça marche. Merci beaucoup, Joël. Voilà, notre verset de la journée soit ce verset-là qui présente la foi chrétienne d'une manière très spécifique, qui présente la foi chrétienne comme une espérance. C'est Pierre qui parle quelques années après le départ de Jésus, donc ils ont l'histoire, ils savent ce qui est arrivé. Ils ont suivi Jésus, ils l'ont entendu, ils l'ont accompagné. Les textes des Écritures que nous connaissons comme le Nouveau Testament commencent à être écrits, diffusés. Et voilà que les chrétiens commencent à devoir rendre compte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils espèrent, de la façon dont ils vivent dans la société de l'époque. Et Pierre leur dit la chose suivante. Soyez toujours prêt à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. C'est le verset que je vous propose comme base, comme fondement de tout ce que nous allons dire et faire aujourd'hui. Si vous lisez dans la Bible du Semeur, vous lisez « Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre. » Alors je n'ai pas mis là au tableau, enfin à l'affichage, quelques mots qui suivent ce verset et qui sont très importants aussi. Pierre précise, et pour tous ceux d'entre nous qui sommes engagés dans un dialogue avec les structures publiques, avec les structures associatives, tous ceux d'entre nous qui sommes appelés à un ministère où la foi chrétienne est régulièrement remise en cause ou même, on va dire, opposée, de la part de la société dans laquelle nous vivons, Pierre dit quelque chose de très important. Le verset complet, c'est le suivant. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Mais faites-le avec douceur et respect. La Semeur traduit le mot douceur par humilité. Alors, le programme de la matinée et puis de l'après-midi, nous allons parler de défis. Nous allons parler notamment des défis que nous rencontrons lorsque certaines de nos valeurs, dans le domaine de l'éthique ou de la moralité, si le mot éthique vous déplaît, On peut utiliser aussi le mot moralité. Quand nos valeurs dans ces domaines-là entrent en conflit avec les valeurs de nos contemporains. Nous allons surtout parler du défi de considérer notre foi sous l'angle d'une espérance, non pas une liste de règles ou un système de pratiques. Et cet après-midi, nous allons parler de ce que je considère peut-être comme le défi le plus difficile à relever dans la société contemporaine. Comment communiquer notre foi comme une espérance, de manière qui soit cohérente, crédible, de manière qui donne envie. Cet après-midi, nous aurons aussi le temps d'un dialogue autour de ces questions. Ce que je dirai cet après-midi prendra un peu moins de temps que ce que je vais dire ce matin. Et donc, vous aurez l'occasion de réagir, de me poser des questions, de me demander de préciser certaines notions. Et il y a sur la table derrière, où je me tiendrai pendant une bonne partie de la pause de midi avec mes livres, il y a aussi une feuille où vous pourrez poser des questions, écrire des questions, et je tâcherai d'y répondre, enfin, de donner l'occasion d'y réfléchir ensemble à la fin de mon intervention de cet après-midi. J'aime beaucoup la manière dont Pierre exprime ce que nous avons à défendre en tant que chrétiens. L'espérance qui est en vous. La foi, c'est beaucoup de choses. C'est premièrement notre relation avec Dieu lui-même. Vous pensiez que j'allais dire que c'était aller à l'église ? Non. C'est premièrement notre relation avec Dieu lui-même. La foi, c'est une façon de vivre. La foi, c'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de valeurs. La foi, c'est aussi une identité commune. Si nous sommes là ce matin, c'est que soit nous sommes chrétiens et nous aimons nous retrouver avec d'autres chrétiens, soit nous ne sommes pas chrétiens, et je suis certain que plusieurs d'entre vous aujourd'hui n'êtes pas, ne vous considérez pas en tant que cas comme chrétiens pratiquants, et bien si vous êtes là, c'est parce qu'on vous a invité et que vous avez des amis chrétiens. Les chrétiens forment une identité commune d'un peuple racheté. Et Pierre ici souligne une extraordinaire facette que j'ai tendance à perdre de vue. Je l'avoue, j'ai tendance à perdre de vue cette facette de la foi chrétienne dans les pratiques, dans le travail, dans le ministère. Vous imaginez que j'ai souvent des délais de rédaction. Un magazine qui paraît tous les mois, il faut honorer le délai de l'article que le rédacteur chef attend. Eh bien, dans tout ce brouhaha de la vie, on va dire, dans ces occupations, nous avons tendance à oublier que la foi chrétienne est une espérance. En quoi consiste-t-elle, cette espérance ? Eh bien, cette espérance change notre perception du monde. Le contexte de ce verset de Pierre, si nous avions pris le temps de lire un peu plus largement dans ce chapitre, nous aurions vu que le contexte de ce verset dans l'épître, la première épître de Pierre, c'est un contexte que nous connaissons bien. Il s'agit de la vie vécue dans un monde qui ne comprend pas la foi chrétienne. Il ne s'agit pas à proprement parler de la persécution. Pierre parle d'opposition, il parle de mépris, mais ce n'est pas à proprement parler la persécution. Je pense que Pierre s'adressait à des églises, des chrétiens, un peu plus largement que les églises qui, à l'époque, étaient pour certaines déjà persécutées. Il s'agissait plutôt d'un monde où la foi chrétienne était méprisée et incomprise. D'ailleurs, la Bible Sommer intitule la section à partir du chapitre 2, verset 11, par un petit sous-titre. Il faut se méfier un petit peu des sous-titres dans la Bible, qui parfois orientent notre interprétation de certains passages. Mais là, ce sous-titre nous donne bien le contexte. Vivre dans un monde hostile. Nous vivons dans un monde hostile à la foi, d'une manière ou d'une autre. Ceux qui nous regardent, parfois, nous interrogent, mais sur certaines des bizarreries que, allez, après tout, quand il fait beau le dimanche matin, il faut être un peu bizarre d'aller s'enfermer dans une salle à lire des textes, à écouter quelqu'un parler, à chanter, alors qu'on pourrait aller à la plage, faire des vide-greniers, aller à la pêche. Ça paraît bizarre comme attitude. Les gens peuvent s'interroger. Parfois, ces interrogations, ces incompréhensions peuvent provoquer des malaises au travail et dans d'autres contextes. Ce verset de 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, qui lance un peu cette section, commence de la façon suivante. « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires. » C'est la clé. Nous sommes de passage sur terre. On raconte qu'un jour, un touriste citadin est parti rendre visite à un homme qui était l'auteur de nombreux livres très profonds, c'était pas moi, et que le citadin avait lu et apprécié beaucoup. Alors il arrive chez cet auteur et il est surpris de constater que l'écrivain habite une cabane qui contient surtout des livres, outre une table et quelques chaises. « Où avez-vous installé vos meubles ?» demande le touriste. « Où sont les vôtres ?» rétorque l'écrivain. « Mes meubles ? Voyant, je ne fais que passer. Je ne suis qu'en visite ici. »« Moi aussi, » dit l'écrivain. C'est bien le contexte de ce passage de Pierre. Le chrétien n'attire pas que de la sympathie, car il ou elle vit de manière souvent déphasée par rapport au monde qui l'entoure. Sans forcément provoquer la persécution, ce déphasage nous vaut souvent de l'opposition, parfois une certaine hostilité, en tout cas de l'incompréhension. Et l'espérance chrétienne, c'est justement savoir que nous ne sommes que passagers sur terre. Car nous sommes destinés à vivre dans un monde bien meilleur. Nous ne sommes pas faits pour nos 70, 80, 90 ans sur terre. Vous le saviez ? J'espère que vous en souvenez tous les matins en vous réveillant. Je ne suis pas fait juste pour ça, ici et maintenant. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour l'immensité d'un Dieu qui nous a créés pour vivre avec lui éternellement. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'arrivons pas à nous habituer au passage du temps. Peut-être qu'il y a des gens ici que vous n'avez pas vus depuis longtemps. « Oh, dis donc, t'as changé. Oh, dis donc, t'as perdu des cheveux. » Ah non, ça, il n'y a que à moi qu'on le dit. « Oh, dis donc, comme t'as grandi. » Nous sommes étonnés du passage du temps. Et pourtant, nous ne devrions pas nous étonner. C'est bien un des aspects les plus systématiques de la vie humaine. Nous avons tous exactement le même vécu du temps, les mêmes 24 heures par jour. L'autre chose à laquelle nous n'arrivons pas à nous habituer, c'est la mort. Là encore, n'est-il pas un domaine plus systématiquement humain que la mort ? Et pourtant, nous continuons à être affligés du départ de ceux qui nous quittent. Nous continuons à être en colère devant la tristesse et l'affliction de la mort. Et c'est une bonne chose, parce que Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Dieu nous a créés pour l'éternité, et nous le perdons souvent de vue. L'espérance chrétienne, c'est savoir que nous sommes de passage sur terre, car nous sommes destinés à vivre éternellement dans un monde bien meilleur. Et la vie que nous menons ici-bas, nous la menons dans la perspective de l'éternité avec le Seigneur. L'espérance chrétienne change notre façon de voir le monde, ça change nos valeurs, ça change la façon dont nous nous investissons dans nos activités. Ce n'est pas étonnant, si nous savons que nos 80-90 ans sur Terre sont les préparatifs de l'éternité, eh bien, on les vit différemment que s'il s'agissait de l'ensemble de tout ce que nous pouvions espérer. D'un côté, ça nous permet de prendre du recul et de ne pas valoriser certaines choses que d'autres considèrent comme importantes. De l'autre, ça nous pousse à donner beaucoup d'importance à d'autres choses, car nous savons que la vie ici et maintenant détermine où nous allons passer l'éternité. L'espérance donne du sens à l'épreuve. Ma mère a été diagnostiquée avec la maladie de Charcot, début 2013. Elle en est décédée en janvier 2014. Il s'agit d'une maladie, pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Charcot, il s'agit d'une maladie qui paralyse progressivement les membres, puis la respiration, la parole et la respiration. C'est en tout cas de cette forme de la maladie de Charcot que ma mère a souffert. Et dans les derniers mois de sa vie, elle avait besoin de quelqu'un à son côté, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui était assuré, cette présence était assurée par les services de soins palliatifs. Mes parents ont pris leur retraite en Écosse, et donc elle était là-haut dans un centre de retraite où il y avait des infirmières et des soignantes qui venaient s'occuper d'elle. Et puis le week-end, les services sociaux n'assuraient pas toute la semaine, donc le week-end, mes deux sœurs, moi-même, mon père, nous avons assuré les week-ends. Je me rendais donc tous les mois en Écosse pendant toute l'année 2013 pour passer un week-end avec mes parents. Et en l'accompagnant pendant cette année de souffrance, j'ai pu observer de près son espérance chrétienne. Des dizaines et des dizaines d'autres personnes, amis, voisins, soignants, l'ont observé aussi, son espérance chrétienne. Son espérance dans le Seigneur Jésus-Christ l'a projetée quotidiennement dans l'éternité où elle ne souffrirait plus. Et pendant cette année, il se trouve qu'un débat se déroulait dans les sphères gouvernementales et dans la société en général, c'est un débat qui n'est toujours pas clos, vous le savez, autour de la question de la fin de vie. L'euthanasie, l'accompagnement en fin de vie, les soins palliatifs, etc. Alors d'un côté, tous les mois, j'allais passer le week-end avec ma mère qui ne pouvait plus bouger du tout et qui souhaitait mourir et qui demandait au Seigneur de la reprendre. Et d'un autre côté, j'entendais régulièrement parler, sur Internet surtout, parce que c'est mon vecteur principal d'information, de l'accompagnement en fin de vie, de questions comme mourir dans la dignité, abréger les souffrances, choisir le moment de sa mort, etc. Vous connaissez le vocabulaire. Et donc pendant une année, j'ai vécu une juxtaposition parfois douloureuse, mais intéressante, entre le discours public et les discours de ma mère. Parmi les contrastes les plus frappants, j'ai remarqué que l'espérance éternelle ne figurait pas au tableau des discours publics. L'espérance éternelle n'était jamais mentionnée dans les instances gouvernementales, dans les discours qu'on entendait dans les médias. Ce qui, pour ma mère, était le secours quotidien d'une espérance éternelle avec son Sauveur, l'accompagnement de Jésus-Christ dans sa vie, tout cela qui donnait du sens à ce qui se passait dans la vie de ma mère, eh bien ne figurait même pas, n'était même pas mentionné dans le discours de la société. C'était un énorme contraste. La foi ou la religion n'étaient évoquées dans le discours social ou politique que comme des contraintes qui empêchent l'être humain de faire ce qu'il veut. C'est généralement comme ça qu'on envisage la foi ou que les gens perçoivent la foi chrétienne. Il était question de se ménager des portes de sortie lorsqu'on souffre trop, décider d'en finir quand la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je me souviens d'un moment où nous étions là, mes sœurs, mon père, moi et ma mère, il y avait une décision importante à prendre sur des soins de fin de vie. Et le médecin qui s'occupait d'elle est venu nous aider à prendre cette décision. Il était question de prolonger, enfin de faire une démarche qui pouvait peut-être prolonger sa vie de quelques semaines. Et ce médecin qui était là, qui était très gentil, ma mère lui s'est tournée vers lui, il lui a dit « Et vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Et il a dit « Oh, moi, je suis cycliste. Si je ne peux plus faire du vélo, je trouve que ma vie ne vaudrait pas vraiment la peine d'être vécue. » J'ai dit « Mon pauvre !» Enfin, je n'ai pas dit, j'ai pensé « Mon pauvre !» Si c'est pour ça que vous vivez, Je raccourcis, je caricature peut-être un peu, mais l'essentiel est là. La foi ou la religion sont si souvent perçues comme des contraintes. À nous la charge de présenter notre foi comme une espérance. Si par contre nous savons que tout ce que nous vivons ici-bas n'est que le début de l'histoire, alors nous supportons différemment les difficultés. Il y a un texte que j'hésite beaucoup à utiliser. C'est un texte biblique, Jésus l'a utilisé, donc je parle sous son autorité. C'est Jean chapitre 16, versets 20 et 22. Jésus est en train de parler à ses disciples et il parle de leur tristesse. Il va les quitter, il va les laisser, il leur a promis le consolateur, enfin il leur promettra le consolateur, etc. Mais il sait que les disciples vont passer par l'épreuve terrible qu'a été la crucifixion, qu'a été la passion. Et voici ce que Jésus dit à ses disciples. Et la raison pour laquelle j'hésite, moi, en tant qu'homme, à parler, à utiliser ce texte, vous allez très vite le comprendre. Jésus dit la chose suivante. « Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais quand elle a donné le jour au bébé, elle oublie son épreuve à cause de la joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Alors, je n'ai jamais souffert autant qu'une femme souffre quand elle accouche. Mais je me permets de reprendre cette image utilisée par Jésus pour illustrer cette vérité de l'espérance chrétienne. Les chrétiens peuvent garder leur espérance, y compris dans l'épreuve, car ils savent que ce n'est que le début de l'histoire. Et dans la partie principale de l'histoire, il n'y aura plus d'épreuve, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura que de la joie. Alors il y a des moments où la vie chrétienne, néanmoins, complique la vie. Parfois la foi complique la vie. Dans un monde où la profitabilité, où le plaisir sont les valeurs principales qui dictent la conduite humaine, il peut être difficile, il peut être compliqué de vivre selon des valeurs différentes. Nous constatons là une tension majeure de la foi chrétienne. Parfois, la vie chrétienne complique les choses et il faut le reconnaître. Sinon, les gens, quand ils arrivent, s'étant donné à Jésus et se rend compte que eh bien, Jésus ne nous simplifie pas tous les aspects de la vie, ne règle pas tous nos problèmes et ne nous épargne pas toutes les souffrances, eh bien, on peut dire, attention, il y a tromperie sur la marchandise. Si nous faisons croire qu'une fois qu'on est chrétien, tout est beau, tout est bien, tout est simple, ce n'est pas du tout le cas, nous le savons. Parfois, la vie chrétienne complique les choses dans des domaines bien spécifiques, comme la dignité humaine. Ce serait tellement plus facile si nous pouvions disposer de nous-mêmes, si nous n'avions pas une autorité supérieure pour dire qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui ne l'est pas. La sexualité et le mariage, le couple, l'honnêteté professionnelle, la relation à l'argent, par exemple. Les principes chrétiens dans tous ces domaines peuvent parfois nous compliquer la vie, peuvent nous pousser à réfléchir sur ce qui est vrai et faux, sur ce qui est juste et mauvais. En tout cas, cette complication est souvent perçue par ceux qui nous observent. Ils se disent, ah ben moi j'ai pas envie d'être obligé de vivre ça. Et c'est vrai, souvent nous préférerions les règles, n'est-ce pas ? Tellement de choses qui seraient simplifiées si seulement Dieu avait donné une liste de règles à suivre. Voilà, le dimanche, à telle heure, le culte commencera et vous y serez. Tu réserveras le cinéma ou le bowling au samedi soir. Les vide-greniers commenceront à 14 heures, comme ça il n'y aura pas de conflit avec le culte du dimanche matin. Or, la foi, ben, ce n'est pas la peine de parler d'une espérance si la foi, c'est une liste de règles. La foi est une espérance parce qu'elle est une relation. Si elle était une liste de règles, ça ne marcherait pas. Il y a quelques années, j'ai été donc le traducteur de l'équipe francophone dans un congrès d'artistes chrétiens aux Pays-Bas. Donc c'était des artistes de tous les milieux qui venaient louer le Seigneur ensemble, réfléchir ensemble à leur pratique artistique. Il y avait donc les arts plastiques, il y avait les arts du spectacle, beaucoup de gens très créatifs. Et j'ai fait là la rencontre d'un jeune artiste luxembourgeois. C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un, où j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui venait du Luxembourg. Et ce jeune homme, qui était chrétien depuis 2 ans à peu près, gagnait sa vie comme artiste d'effets spéciaux. Et donc 90% de son chiffre d'affaires, c'était les films d'horreur. Il était venu à ce congrès d'artistes chrétiens avec une question très particulière. Il m'a dit, écoute, j'aimerais qu'on prenne une bière ensemble un soir parce que je veux te poser une question. Et sa question, c'était la suivante. Je suis artiste, je travaille dans les effets spéciaux du cinéma, je gagne ma vie grâce aux films d'horreur, je suis chrétien. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que l'éthique chrétienne va me pousser à quitter ce milieu professionnel? Est-ce que je peux continuer à gagner ma vie en faisant des films d'horreur? Est-ce que l'éthique chrétienne va justement me pousser à rester dans ce milieu? Parce qu'il me dit ça d'une manière un petit peu étonnée, il n'avait que 2 ans de vie chrétienne. « J'ai pas rencontré d'autres chrétiens dans ce milieu. » J'ai dit « Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. » Et donc, mes réponses, on me demande souvent « Et qu'est-ce que tu lui as répondu à cet ami luxembourgeois ?» Eh bien, ma réponse, c'est comme beaucoup de mes réponses. Ce n'était pas une règle. Je n'allais pas lui dire « Tu vas faire ça ou tu vas faire ci. » Ça aurait été simple. La conversation aurait été évacuée. Mais bon, je lui ai compliqué la vie. Je lui ai dit « Attends. » Dans ta décision, il te faut tenir compte des éléments suivants. Et c'est là la clé de l'éthique chrétienne. C'est rarement « voilà la solution, voilà la clé ». C'est presque toujours « voilà de quoi tu vas parler avec Dieu ». Et ensuite, tu en parleras à ton pasteur, à d'autres chrétiens. Et tu vas tenir compte de ça, de ça et de ça. Et ensuite, tu prendras ta décision. Beaucoup des questions difficiles de la vie chrétienne se passent comme ça. Tu dis, voilà, tu vas tenir compte de la réalité du danger. Est-ce un monde dangereux? Es-tu soumis à des influences dangereuses qui menacent ta vie chrétienne? Deuxième considération dont tu devras tenir compte, c'est ton témoignage dans ce milieu. Tu es peut-être le seul chrétien que beaucoup de tes collègues ne vont jamais rencontrer. Est-ce que cet aspect danger de la chose vaut la peine que tu les prives de ce vecteur de présence chrétienne dans leur monde? Et puis, troisième considération, l'espérance chrétienne. Ta carrière n'est pas toute l'histoire. Ce que tu vis ici, y compris ta carrière professionnelle, n'est que le début de l'histoire. Tu vas tenir compte de ces 3 choses et demain on se reprendra une bière ensemble et on en reparlera. Nous savons que la foi chrétienne a des choses à nous dire dans beaucoup de domaines différents. Alors la tentation naturelle, c'est de dire, c'est quoi la règle ici? C'est quoi la règle que je vais devoir respecter? Or, les règles ont du sens uniquement si nous les abordons sous l'angle de notre espérance en Dieu. Parce qu'elles dépendent de notre relation avec Dieu, notre espérance. Et une relation, ça doit se cultiver, comme toutes les relations. Si vous ne cultivez pas vos relations, elles vont disparaître. Notre espérance est en Dieu. pas dans la philosophie chrétienne, pas dans les autres chrétiens, pas dans l'Église, pas dans votre dénomination, pas dans les certitudes doctrinales qui vous inspirent, encore moins dans votre capacité à respecter les règles. Notre espérance est en Dieu. Si vous n'avez pas une relation ancrée en Dieu lui-même, les défis de la vie chrétienne seront insurmontables. Titre de notre journée, relever les défis du monde moderne. Eh bien, le chrétien dans le monde moderne sera perdu et va sombrer s'il ne cultive pas sa relation personnelle avec Dieu. Avoir une relation personnelle avec Dieu peut sembler prétentieux ou difficile. C'est oublier que nous avons un allié de choix, Dieu lui-même. Nous n'avons pas besoin de l'apaiser par des sacrifices pour qu'il soit de notre côté. Dieu est de notre côté. Quand vous pensez à la vie chrétienne, quand vous pensez aux devoirs du chrétien, quand vous pensez aux témoignages, quand vous pensez aux pratiques de la piété que sont la lecture de la Bible, la prière, comment vous pensez à Dieu? Comme celui qui est là à vérifier que vous honorez bien l'ensemble des règles. Quelqu'un qu'il faut apaiser, quelqu'un qu'il faut impressionner peut-être. Ou quelqu'un dont il faut compenser la déception parce qu'après tout ma vie n'est pas à la hauteur de ses attentes. C'est oublier que Dieu est fondamentalement de notre côté. Cette relation avec Dieu est rendue possible par ce que nous appelons la révélation. Et sans elle, aucune réflexion chrétienne sur tous les sujets de société n'a de sens. Sans la révélation, Dieu s'est révélé à nous, s'est montré à nous. Il s'est montré à nous en Jésus, la personne de Dieu rendue visible par Jésus, présent dans notre vie par le Saint-Esprit. Dieu se révèle à nous aussi par le texte biblique. Il se révèle à nous dans la Bible, qui nous permet de comprendre, mais qui est inutile, sans la relation avec Dieu. Allez, j'exagère en disant inutile. Même si vous n'avez pas de relation avec Dieu, lisez quand même la Bible. Parce qu'au final, vous y découvrirez Dieu. Parce que la Bible est inspirée pour que nous puissions le connaître. Mais nous pouvons, quelqu'un qui lirait sa Bible tous les jours, toute sa vie, qui ne connaît pas Dieu, est aussi perdu que celui qui ne l'a jamais lu. La Bible, c'est le moyen d'arriver à Dieu, de connaître Dieu. Ce n'est pas la fin en soi. Alors pourquoi espérer en Dieu plutôt qu'en soi-même ? La grande différence entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas, c'est que le chrétien a placé sa confiance en Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes plus notre autorité suprême. Dans nos choix, dans nos décisions, nous ne sommes plus seuls à décider. Bon, je sais que, messieurs, ce sont vos épouses qui décident, ça c'est clair. Mais ce n'est plus l'être humain qui décide. Parce que le chrétien se tourne vers Dieu et lui dit, c'est quoi ton avis, Seigneur, sur cette décision-là, sur ce que je vais faire là, sur cette situation difficile, sur mon couple, sur mon mariage, sur ma vie amoureuse, sur ma façon de vivre, d'interagir avec mes enfants. C'est quoi ton opinion, Seigneur? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? C'est ça, faire confiance à Dieu. C'est Dieu qui devient notre autorité ultime. Placer notre espérance en Dieu, cette espérance dont parle Pierre dans notre verset clé de la journée, c'est de nous tourner vers lui pour savoir comment nous comporter. Alors pourquoi? On raconte que dans les premiers temps de l'automobile, un homme qui possédait une Model T, une Ford Model T. Alors les Ford Model T aux États-Unis, c'était les premières voitures qui étaient suffisamment peu chères pour que presque le commun des mortels puisse en acheter une. C'était un peu la démocratisation de l'automobile. Et on raconte qu'un jour, un monsieur tombe en panne. Alors, je m'excuse auprès des membres de l'église de Dinan-Kever, où j'adore le Seigneur la plupart des dimanches matins, qui ont déjà entendu cette histoire lors d'une de mes prédications. Ce jour-là, quelqu'un avec qui conduit sa Model T, sa Ford, tombe en panne. Alors, il ouvre le capot, mais n'oubliez pas, c'est les débuts de l'automobile. Donc, il ne sait pas ce qu'il faut faire, il n'est pas mécanicien. Il ouvre le capot, il voit des tuyaux, il voit des bouts de fer, il n'y comprend rien du tout, il ne sait pas trop quoi faire. Sur ce, s'arrête une autre Model T. Monsieur, on descend, vient le voir en disant, je peux vous aider ? Ma voiture ne marche plus. Laissez-moi voir. Alors il regarde un petit peu, il retourne à son véhicule, à sa Ford Model T. Il sort quelques outils, il vient, il resserre deux, trois trucs, il tape un peu. Et puis il dit maintenant tournez la manivelle. Et puis, ça repart. Alors le monsieur qui était tombé en panne lui dit, merci beaucoup, vous m'avez bien sorti d'affaire. À qui ai-je l'honneur ? Ford, Henry Ford. Le fabricant. C'est pour ça qu'il savait comment réparer le véhicule. Alors la première raison pour laquelle nous espérons en Dieu plutôt qu'en nous-mêmes, c'est qu'il est notre fabricant. C'est lui qui nous a créés, il est notre créateur. Et c'est la première raison pour laquelle les chrétiens, lorsqu'ils ont des choix difficiles de vie à faire, vont écouter ce que Dieu pense de leur situation. Parce qu'il nous a créés avec notre psychologie, avec notre corps, avec nos besoins relationnels, nos besoins physiques. Et il sait comment nous fonctionnons. Donc, la première raison pour laquelle nous allons lui faire confiance, c'est qu'il nous connaît entièrement. Il est notre fabricant, notre concepteur. Deuxième raison pour laquelle nous allons lui faire confiance et nous allons placer en lui notre espérance, y compris dans les décisions difficiles de la vie, c'est qu'il est notre sauveur. Nous obéissons à Dieu parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés, nous sommes à lui, il est notre Seigneur. Il a tout fait pour que nous puissions avoir accès à lui et le connaître. C'est bien d'être désiré, n'est-ce pas ? C'est bien d'être aimé. C'est bien d'être, quand vous arrivez, ça vous est déjà arrivé peut-être, d'arriver dans une pièce ou peut-être une nouvelle école ou un nouveau lieu de travail et vous pensez que vous ne connaissez personne. Et là, vous rentrez dans une pièce où personne ne vous connaît. Et puis en face de vous, quelqu'un vous voit, son visage s'illumine et il vous appelle par votre prénom. Ça fait du bien. Parce que nous aimons être appréciés, nous aimons être accueillis. Dieu est comme ça avec nous. Son visage s'illumine lorsque nous nous tournons vers lui. Il nous aime, il nous veut, il nous désire. Et c'est un message que beaucoup de nos contemporains ont besoin d'entendre aujourd'hui. Dans un monde qui évalue l'être humain par ses capacités de séduction ou la taille de son compte en banque ou la réussite professionnelle, savoir que nous sommes aimés, désirés tels que nous sommes, c'est extraordinairement précieux. Bien sûr, comme sauveur et seigneur, Dieu s'engage envers nous, protection, droit, il nous défend, il nous soutient. Dieu est notre créateur, Dieu est notre sauveur et notre Seigneur. Troisième motivation pour l'obéissance chrétienne, c'est que Dieu nous aime. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, chaque fois que nous faisons quelque chose que nous savons déplaire à Dieu, c'est une façon de lui dire, par implication, tu ne m'aimes pas assez. Je ne pense pas que tes règles soient vraiment pour mon bien. Je sais mieux que toi ce qui me convient. C'est pour cela que le péché est si grave. Le péché, ce n'est pas juste une petite erreur de parcours. Chaque fois que nous commettons des choses que nous appelons péché, c'est-à-dire des choses qui déplaisent à Dieu, des choses qui introduisent le trouble dans notre relation avec Dieu, c'est une façon de lui dire, je sais mieux que toi, et toi tu ne m'aimes pas assez. Dieu nous aime. C'est la troisième motivation profonde de l'obéissance chrétienne, y compris dans tous les domaines éthiques. Cet amour, la Bible le décrit de différentes façons, famille, amitié, intimité. Concrètement, qu'est-ce que ça donne tout ça dans les décisions et les décisions difficiles, compliquées de la vie ? J'aimerais maintenant, avant de terminer, envisager quelques domaines spécifiques, la manière dont ça peut changer les choses. Tout d'abord, j'ai déjà touché ce thème de la fin de vie, de la dignité humaine, en évoquant le parcours de ma mère. Et je n'ai pas le temps d'approfondir ici ce matin un sujet complexe, personnel et potentiellement douloureux. Peut-être que vous êtes en train de passer par là en ce moment, je ne sais pas. Et un traitement rapide de ce thème risquerait de faire des raccourcis blessants. Mais certaines conséquences de ce que je viens de dire ce matin pour ce thème spécifique de la fin de vie me semblent évidentes. Tout d'abord, la valeur de la vie ne dépend pas de la productivité, du compte en banque, du look, de la capacité de séduction, mais du fait que Dieu nous veut sur terre. Nous sommes tous intensément désirés par Dieu. Donc, aucun être humain n'a le droit de décider qu'une autre personne est trop vieille ou trop handicapée pour vivre. C'est le fondement. Vous savez certainement que la plupart des chrétiens de différents bords, en France, dans le monde, sont contre l'euthanasie. Je fais un raccourci très, très rapide là. La raison, c'est pas parce que la Bible dit l'euthanasie c'est mal. C'est pas parce que des professeurs de théologie ont décidé que l'euthanasie c'est mal. La raison, c'est parce que nous sommes créés par Dieu et nous vivons sous son regard. Et c'est lui qui détermine, non pas nous, ce qui est humain et ce qui ne l'est pas, ce qui est digne de vivre et ce qui ne l'est pas. Aucun être humain, autre conséquence, n'a le droit de décider qu'un enfant non né est trop handicapé ou pas assez aimé pour naître. Et parmi les domaines où nous devrions améliorer notre approche en tant que chrétiens, c'est la façon dont nous valorisons les personnes déconsidérées. Lisez la Bible, si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu est toujours du côté des petits, des faibles, des pauvres. Toujours. Le deuxième domaine, c'est celui de la sexualité. Et la Bible nous aide à trier dans tous les messages que nous recevons, dont nous sommes bombardés à longueur de journée autour de ce sujet. Nous ne sommes pas notre sexualité. Notre sexualité fait partie de la création. Elle est voulue par Dieu, mais elle ne résume pas notre être. Notre être dépend du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, quelle que soit notre sexualité. Et cela vaut pour tout le monde, y compris les personnes dont la sexualité ne correspond pas à la norme hétérosexuelle. Contrairement à ce que nous feraient croire les médias, il est possible de vivre épanoui sans avoir de relation sexuelle. D'ailleurs, Jésus, en venant sur terre montrer à quoi ressemble l'être humain parfait, n'a pas choisi d'intégrer la conjugalité, le mariage, la procréation à cette image de l'être humain parfait. Du point de vue chrétien, la relation sexuelle est donc à voir comme un don et non pas comme un dû. Vous avez bien noté la différence. C'est-à-dire que le bonheur humain devant Dieu peut inclure la sexualité active, mais n'en est pas dépendant. Le bonheur dépend de la relation rétablie avec Dieu, nous dit le psaume 16, et peut donc se trouver en dehors d'une sexualité active. Cette affirmation est en contradiction douloureuse et forte avec les valeurs de la société contemporaine, qui, sous l'influence des médias, publicité, cinéma, internet, nous ferait croire, tend à présenter l'assouvissement des désirs de la sexualité comme un droit humain, un droit fondamental. Et si on n'a pas une sexualité active, on ne peut pas espérer être heureux. C'est le message qu'on a parfois l'impression d'entendre. Et c'est un message fondamentalement mensonger. Je me souviens à l'époque du procès d'Outreau. Vous vous souvenez peut-être de cette époque où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été accusées de pédophilie. J'étais en train de rouler et j'écoutais la radio. Et à la radio, je pense que c'était France Inter, j'ai entendu un journaliste dire une chose suivante. J'aurais dû m'arrêter sur le bas-côté, sortir un papier, un stylo et noter exactement l'heure, le moment, le nom du journaliste. Je ne l'ai pas fait, je le regrette. Mais il a dit la chose suivante, en parlant de la pédophilie, il a dit « La société a le devoir et le droit d'enfermer les pédophiles parce que nous devons défendre les enfants, les faibles. Mais la société doit se garder de condamner les pédophiles, d'émettre un jugement moral, parce que après tout, c'est de leur sexualité qu'il s'agit. » Le comble. Après tout, c'est de leur sexualité qu'il s'agit. Lorsque nous acceptons que Dieu est notre Créateur, notre Sauveur et qu'il nous aime, nous acceptons d'écouter ce qu'il nous demande de respecter pour notre bonheur et notre épanouissement. Et cela vaut aussi dans le domaine de la sexualité. C'est le fondement de la position chrétienne sur la question. Dieu a posé un cadre pour les relations sexuelles, un homme et une femme engagés dans une alliance à vie devant Dieu et devant la société. Toute autre forme, comme l'adultère ou la pratique homosexuelle, est contraire au bien et à l'épanouissement de ceux où la vie, où l'espérance chrétienne et les choix que nous faisons peuvent nous compliquer la vie. C'est celui de la vie professionnelle. J'ai parlé déjà de cet ami qui devait décider si oui ou non il continuait à gagner sa vie en faisant des films d'horreur. Je pense à un patron que j'ai connu, qui était donc patron d'une usine de fabrication d'emballages agricoles. Et il avait donc son usine avait été rachetée par un grand groupe, et il avait une pression de productivité de la part des responsables du groupe pour lequel il travaillait. Et il y a eu un conflit social dans son usine, avec des revendications légitimes de la part de ses travailleurs. Patron chrétien, la pression de la productivité des responsables du groupe international et les revendications légitimes de certains travailleurs qu'il avait en face de lui. Son éthique chrétienne lui inspirait un amour de la justice, un amour du droit des travailleurs, tout en étant... C'était un patron, donc il savait son usine devait rapporter. Donc il devait quelque part satisfaire aussi ceux qui avaient un droit de regard sur sa productivité. Et je me souviens, le jour où il en a parlé au culte, il y a longtemps de ça, il avait dit « ça serait quand même plus simple si je n'étais pas chrétien ». Je pense aussi à deux jeunes chrétiennes, étudiantes, qui sont venues me voir dans un camp au centre des jeunes il y a quelques années. Toutes les deux étudiantes de grandes écoles, une ingénieure, l'autre commerce, et qui sont venues me voir en me disant « Dans les grandes écoles, il y a une culture de la fête qui est très importante. Faire partie du groupe, faire comme les autres, faire la fête et se saouler, se bourrer la gueule. » Et en tant que chrétien, on a grandi dans des familles chrétiennes toutes les deux, elles étaient de familles différentes, on a grandi dans des familles chrétiennes toutes les deux, et on sait qu'on ne doit pas se saouler. Mais à part que nos parents nous ont dit que c'est mal, et qu'à l'église, le pasteur et le responsable du groupe de jeunes nous ont dit que c'est mal, objectivement, pourquoi c'est mal? À part ce verset qui dit dans la Bible, nous ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi c'est mal? Ça ne suffit pas. Être chrétienne, compliqué leur vie dans ce domaine professionnel. La réussite professionnelle ne définit pas une personne. Je l'ai déjà dit, c'est Dieu et notre relation avec lui qui nous définit. Qui nous sommes devant lui compte davantage que notre réussite professionnelle. Notre espérance éternelle nous permet de faire des choix qui semblent être parfois désavantageux ici et maintenant. J'aurais pu parler, je n'ai pas le temps de le faire, d'argent, de l'utilisation du temps, de l'engagement politique. Des domaines éthiques où les valeurs chrétiennes sont très pertinentes, ont beaucoup de choses à dire, mais peuvent compliquer notre vie parfois. Surtout dans nos relations avec ceux qui ne partagent pas nos valeurs et ne comprennent pas que notre espérance nous pousse à des choix qui peuvent leur sembler désavantageux. Cet après-midi, nous parlerons donc de l'importance de présenter nos choix éthiques, nos décisions morales, dans tous ces domaines, non pas comme l'obéissance à une règle religieuse, mais le résultat d'une espérance. Nous allons prier. Seigneur, aide-nous à savoir sur quoi nous fondons nos choix, nos décisions. Aide-nous à ne pas être des chrétiens aux dents serrées, constamment en train de lutter pour correspondre à la norme, pour être à la hauteur. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens remplis d'espérance, lumineux d'espérance, afin que d'autres puissent te voir par la lumière que nous reflétons. Au nom de Jésus, Amen.